RFI.
Alors, on dit quoi ?
Wassalam alaikum, c'est Diara au micro de RFI et on démarre ce samedi avec une citation de l'écrivain Oscar Wilde. S'aimer soi-même est le début d'une histoire d'amour qui durera toute une vie. Oui, cette phrase est à l'image de notre discussion du jour autour du bien-être des femmes. Nous verrons comment les jeunes africaines vivent leur féminité. On le sait, désormais, prendre soin de soi contribue à son bien-être. Mais saviez-vous que c'est également un pilier pour préserver sa santé mentale? Je ne vous en dis pas plus. Ndiakhène, c'est parti.
Alors, on dit quoi? Avec Diara Ndiaye.
Et pour en parler justement, je suis aux côtés de Rasmia Abdoulaye, qui est psychologue sociale. Rasmia, soyez la bienvenue.
Merci.
À vos côtés, Youssouf Hamada, qui est le fondateur de Ikanji, la maison du bien-être. On en parlera dans quelques instants. Youssouf, merci d'être avec nous.
Merci de me recevoir.
Autre invité à nos côtés, Marie-Yvonne Dalmeida, qui est fondatrice et CEO d'Autour de Marie. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous, Marie. Et enfin, merci. Notre dernière invitée, Aminata Camara, entrepreneur, coiffeuse esthéticienne, fondatrice de Aminata Paris et Air Therapy by Aminata Paris, un institut à Dakar. Soyez la bienvenue. Merci d'être avec nous.
Merci de m'avoir invitée.
Et notre invitée en ligne depuis le Congo, Leslie Kanaan. Elle est coach professionnelle. Leslie, merci d'être avec nous.
Merci beaucoup, Diara, et bonjour à tous les auditeurs.
Leslie, on va démarrer d'ailleurs avec vous pour nous définir un petit peu ce qu'est cette notion du bien-être pour vous.
Très bonne question, et je pense qu'au niveau de la réponse, ça peut changer en fonction des personnes. Finalement, ce qui peut être bon pour moi peut être un peu moins bon pour une autre personne, etc. Mais je pense sincèrement que le bien-être, c'est d'être aligné entre soi, qui l'on est vraiment, et finalement l'environnement, la vie dans laquelle on peut évoluer au quotidien, et d'avoir en fait certaines habitudes qui nous font du bien, dans lesquelles finalement on récupère de l'énergie, dans laquelle ça nous permet vraiment de pouvoir être au maximum de nos capacités, et de, comme le dit le mot bien-être, c'est être bien dans son être, en fait, tout
et,
simplement.
Et quand avez-vous découvert ce bien-être, Leslie ?
On va dire que j'ai toujours été un petit peu sensible à ces sujets-là. Maintenant, c'est vrai que j'ai eu une transformation de vie depuis 2015, où là, vraiment, j'ai décidé de reprendre ma vie en main. C'est là où j'ai justement commencé à découvrir le développement personnel et que petit à petit, j'en suis même arrivée au niveau à devenir coach moi-même, une deep coach professionnelle. Donc moi, je fais du coaching profond, c'est-à-dire justement, je vais aller chercher à l'intérieur de l'être de la personne les réponses aux questions qu'il peut se poser pour pouvoir justement créer une harmonie dans sa vie et atteindre ses objectifs. Donc quand on parle de bien-être, même au travers du coaching, et notamment le coaching que je fais du développement personnel en faveur du développement professionnel, mais on travaille surtout aussi sur comment créer une forme d'équilibre entre qui je suis, ce que je veux et ce qui se matérialise dans ma vie.
Youssouf Hamada, c'est vrai que Leslie a amorcé la définition du bien-être et a abordé quelque chose de spécifique autour d'une définition propre finalement. Est-ce que vous auriez quelque chose à ajouter, vous ?
Mais j'ai une petite nuance, moi, à apporter sur le bien-être. C'est que c'est catégorisé en deux parties. Donc, il y a le mot bien et il y a le mot être. C'est que pour moi, on vit dans une société où être, c'est tellement compliqué qu'il faut être bien pour pouvoir être. Mm-hmm. Mais sinon, sur toute la partie, ce qu'elle a expliqué, je partage complètement son avis.
On parle de bien-être jusqu'à fonder une maison du bien-être.
Oui, oui, bien
Comment
sûr.
Comment on explique cela, Youssouf?
Bah, tout simplement, en fait, on est parti du constat où il y a 9 millions de personnes qui sont en souffrance en France. Et il est essentiel, en fait, de pouvoir proposer une approche différente parce qu'on a autant de personnes qui sont en souffrance et on a beaucoup de coachs, de thérapeutes. On a beaucoup de choses qui montent dans la société, mais le nombre de personnes en souffrance est toujours en expansion. Et du coup, en fait, moi, je suis parti de ce constat-là, étant moi-même déjà en souffrance, qu'il a fallu que moi-même j'aille chercher des spécialistes dans le domaine de la santé et du bien-être. À côté, il a fallu que j'aille chercher des psychologues, des thérapeutes et ainsi de suite.
Mais c'est quoi être en souffrance,
Être en souffrance, ça veut dire ne pas vivre, ne pas pouvoir être dans une société où on nous impose des règles, où on nous impose des choses, ou même on nous impose d'avoir une image différente. Et donc voilà, donc tout simplement, je suis parti de ce constat-là qui m'a permis justement de créer une maison du bien-être où tout était réuni, où la personne n'a plus besoin d'aller chercher à droite ou à gauche un spécialiste. Tout est réuni dans une maison du bien-être.
On parle de combien de disciplines au sein de cette maison du bien-être?
12, plus de 12 disciplines. On a des spécialistes shiatsu, on a des coachs, on a des thérapeutes, on a des psychologues, on a aussi des ostéopathes, kinésiologues, thérapeutes, art-thérapeutes, sophrologues, et bien d'autres encore que vous pouvez retrouver sur
le
site.
On va découvrir tout ça parce que le bien-être, finalement, c'est bien large. Rasmiya, justement, vous êtes psychologue sociale.
Oui.
Alors, bon, d'abord, on va définir c'est quoi psychologue sociale. Quel est votre métier aujourd'hui?
Alors, psychologue sociale, c'est une personne qui va s'intéresser à l'individu, sa perception du monde et comment il se développe dans ses différents environnements de vie. Et un environnement de vie, ça peut être la famille, le couple, les amis, les relations au travail. Comment on communique dans tout ça? Comment on crée des relations? Et comment la personne se retrouve dans tout ça.
Quelle va être votre mission finalement, Rasmiya?
Moi, ma mission principale quand j'accompagne des personnes, c'est surtout qu'elles se reconnectent avec leurs parties qui sont un peu en ombre. Parce qu'on a l'habitude justement de mettre en lumière certaines parties et pas d'autres. Donc moi, je vais aller puiser dans leurs ressources, leur montrer qu'il y a des ressources qu'il faut mettre en lumière et en avant, et toujours en s'adaptant à la personne, on met en place des projets, justement, on monte des projets ensemble pour qu'elle voit en fait tout ce qu'elle a en elle, les parties ombres et lumières.
Donc là encore, c'est une introspection.
Exactement.
Alors, qu'est-ce qui va vous distinguer, vous, Rasmiya, de Leslie, la coach?
Ce qui va me différencier de Leslie, c'est que moi, je vais m'occuper de l'avant de la personne, le pourquoi en profondeur, le comment mettre en place un projet et le après. Là, c'est vraiment tout le train qu'on prend en marche. Et Leslie, ce sera beaucoup dans le comment, si je ne me trompe pas. Mm-hmm. Et moi, ce sera beaucoup dans le pourquoi, le comment et ensuite comment le mécanisme se met en marche et voir justement l'évolution de la personne comme je m'intéresse au développement de la personne dans son entier.
Et c'est à destination finalement de quel public?
De tout type de public. Moi, je suis plus spécialisée dans tout ce qui est lié aux difficultés, donc les publics dits fragiles. Mais j'ai aussi des personnes qui sont entrepreneurs parce qu'on est psychologue social, mais l'intitulé de mon master, c'est psychologue social et travail. Donc, j'accompagne tout autant les entrepreneurs, les chefs d'entreprise ou comme une personne qui est lambda, j'appelle ça lambda dans le sens où elle rencontre des problématiques de vie et je vais venir l'accompagner. Et c'est ce que je fais au sein d'Icangie. En tant que partenaire Icangie, j'accompagne justement les personnes qui ont des difficultés de vie et à aller mieux.
Alors, c'est intéressant puisqu'il y a justement deux entrepreneurs en face de vous, et notamment vous, Marie-Yvonne d'Almeida. Vous êtes fondatrice de SEO d'Autour de Marie et on pourrait s'interroger à savoir pourquoi je vous ai demandé de venir aujourd'hui.
Alors, déjà, merci pour l'invitation. Pour moi, en fait, on parle de bien-être, mais quand on est entrepreneur, le bien-être, c'est aussi de trouver sa vocation et de trouver sa place. Pour qu'on ait des entrepreneurs forts dans ce monde, il est important que les gens reviennent à eux-mêmes, qu'ils sachent pourquoi ils sont là, quels sont leurs pourquoi. Tout à l'heure, tu as parlé d'un pourquoi. Mm-hmm. C'est super important de savoir pourquoi on fait les choses. Et c'est un peu la mission d'Autour de Marie, finalement. C'est vraiment le pilier. Et on s'intéresse vraiment à qui est la personne qui est derrière le projet.
Mais quand on pense entrepreneuriat, oui, on pense aux chiffres, au business, à faire de l'argent, oui, moins et beaucoup moins, je dirais même quasiment pas, à cet aspect du bien-être.
Alors, c'est drôle ce que tu viens de dire, parce que tu as parlé de faire. On est beaucoup dans le faire. Mm-hmm. Quand on est entrepreneur, on pense qu'il faut faire. Sauf que quand on est entrepreneur, il faut être d'abord avant de faire. Et pour moi, c'était essentiel parce que moi-même, j'étais dans une vie où je faisais beaucoup. Mmh. Et je me suis rendu compte que quand est-ce que je suis? Quand est-ce que je suis au service des autres? Et c'est ce que je fais au sein d'Autour de Marie.
Et aujourd'hui, Marie, comment vous voyez la corrélation entre cet aspect du bien-être dont on va parler tout au long de cette émission et votre entrepreneuriat que vous menez?
Alors, moi, j'accompagne au début. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, en fait, un bon entrepreneur, c'est quelqu'un qui sait qui il est et quelle est sa mission. Donc, pour savoir qui on est et quelle est notre mission, c'est important de savoir quelles sont nos zones d'ombre, quelles sont
nos limites,
qui nous sommes-nous, mm-hmm, nos limites, qu'est-ce qui nous bloque, nos freins, nos façons de faire, nos drivers. Donc, c'est toutes ces choses-là qu'on prépare, en tout cas, on prépare vraiment l'entrepreneur au monde difficile de l'entrepreneuriat.
Ouais, à l'extérieur.
Et pour moi, c'était essentiel. On ne peut pas comme je dis, on ne peut pas avoir des leaders, des champions du monde de l'entrepreneuriat si on n'a pas travaillé sur soi.
Aminata, vous êtes aussi entrepreneur, chef d'entreprise. Vous êtes une femme établie dans le domaine de la coiffure et de l'esthétique. C'est important aussi dans cette notion du bien-être. C'est quoi votre bien-être à vous ?
On va dire que nous, on va être l'entonnoir de tout ce qui s'est dit. Voilà, on va être la finalité parce que psychologiquement, c'est important. Savoir où on veut, ce qu'on veut faire, comment on veut être, c'est important. Mais après, il faut réaliser tout ça. Et nous, c'est là où on intervient. Et tout ça, c'est important, l'écoute. L'écoute, de respecter l'image de la personne, que la personne ne va pas être dénaturée, ne va pas se ressembler, on ne va pas déguiser la personne, on va écouter la personne, on va l'accompagner, on va conseiller les gens, et on peut avoir tout public, que ce soit chef d'entreprise, que ce soit la vendeuse au supermarché. Voilà, nous, c'est vraiment tout public. On réunit tout le monde pour s'occuper, pour leur donner cette image qui doit être en parallèle avec ce que la personne est, au fait.
Les profils sont pluriels. Les femmes que vous recevez dans vos instituts ont de multiples visages, de tout âge, toutes catégories socioprofessionnelles. Mais qu'est-ce qui les lie quand il y a cette difficulté, justement ?
Alors, on va dire que, comme j'aime bien le dire, le feel good pour le look good. On est obligé, aujourd'hui, on est dans une société où l'image est beaucoup plus importante qu'avant. Donc, on a les selfies, on a les réseaux sociaux, on a même pour le travail les zooms, tout se fait en visio. L'apparence est très, très, très importante. Et on a besoin d'être bien, de s'aimer, d'être en accord avec ce qu'on est à l'intérieur. Et nous, le feel good, c'est qu'on va aider, voilà, à la personne, tant côté esthétique. Voilà, par exemple, quelqu'un qui a de l'acné, qui a des choses comme ça. Par exemple, nous, esthétiquement, on va améliorer son apparence. C'est tous ces facteurs qui vont faire que la personne va avoir confiance en elle-même quand elle va être en face des gens au quotidien.
Vous êtes un peu une thérapeute, finalement.
Exactement.
Une thérapeute de la coiffure, et de l'esthétique. On va continuer de parler de ça dans quelques instants. Je voudrais d'abord vous faire écouter un sonore pour parler davantage de la socio-esthétique, vraiment savoir un petit peu c'est quoi. Il s'agit d'Aurélie El-Azak Marzorati. C'est la directrice générale du Centre d'Action Sociale Protestant. C'est le CASM, c'est une association de lutte contre les exclusions. Elle était présente à un atelier organisé par le Philanthrolab à Paris il y a quelques mois. On va l'écouter sur sa définition du socio-esthétisme.
Les ateliers de bien-être sont des ateliers absolument indispensables pour toutes les femmes que nous accueillons. Au CASP, nous accueillons de nombreuses femmes en situation de précarité. Ces femmes ont besoin qu'on prenne soin d'elles, qu'on les aide à tout d'un coup reprendre confiance en elles. Et donc pour nous, c'est très important de proposer ces ateliers socio-esthétiques pour que ces femmes puissent se sentir bien, tout simplement. Être bien dans son corps, c'est être bien dans sa tête, être bien dans son âme. Et donc si au CASP, nous proposons de façon systématique des ateliers socio-esthétiques à toutes les femmes, c'est tout simplement pour leur permettre d'aller mieux, d'avancer, de prendre soin d'elles, de reprendre confiance en elles. Elles en ont tellement besoin. Les femmes que nous recevons dans notre association ont vraiment de multiples visages. Elles peuvent avoir tous les âges. Ce qui malheureusement les lie, c'est qu'elles ont rencontré des difficultés. Et ces difficultés justifient leur présence au sein de l'association et justifient leur besoin de soutien, leur besoin d'accompagnement.
Aminata, reprendre confiance en soi à travers des ateliers pour se sentir mieux, des ateliers de manicure, des ateliers de gommage, massage, manicure, pédicure. C'est finalement ce que vous faites, vous, inconsciemment ?
Oui, c'est ce qu'on fait. Physiquement, c'est ce qu'on fait. Mais je vais dire que c'est plus que ça. C'est psychologiquement, on est là, on écoute, on parle avec la cliente. La cliente se confie. En général, on est un peu les confidentes. Voilà, on est deux, elles sont à l'aise, donc elles se déversent, on les écoute. Et en fonction de tout ce qu'on entend, nous, c'est comme ça. Moi, personnellement, au-delà de l'aspect physique que je vais lui apporter, qui va être joli, qui va faire que la personne va être mieux, c'est voilà, tout ce que je vais lui dire, la bienveillance que je vais avoir.
Les mots comptent, les mots, finalement.
Exactement, c'est hyper important.
Et vous les orientez parfois vers d'autres professionnels de santé ?
Oui, ça dépend des cas. En général, vous savez, on va dire, la majorité, ce sont des femmes. Une femme qui n'est pas bien, des fois, ça peut être juste une manque de confiance qui est liée à son physique ou à sa coiffure. Des fois, comme je dis tout le temps, quand elles rentrent et quand elles sortent, on dirait une autre personne. Mm-hmm. Voilà, elles ont la tête plus droite, elles ont le sourire. On est tous des femmes. Quand on va chez le coiffeur, c'est comme si on allait chez le psy. Donc, rien que ça leur fait du bien et surtout encore le fait de respecter sa personnalité et tout ça y contribue, et surtout aussi l'écoute.
On va continuer de parler de tout cela dans quelques instants. On écoute d'abord Davido, No Competition. No competition for my lady. Oh no, cause she get everything where I need in a woman and more. My lady, if you see my lady, oh, it's the number one. You go know say people fine. You go know say God design in a LLA. Oh, na LLA. Oh, she na yanjo. He like mattress. She na peso. He like dress. I say nobody be contest you. Oh, to my baby, oh. She na yanjo. She na peso. She na westo. Una no be meto. Shandy, show me what you got. Otobi, Olara, Olomi, Famimora, Angelina Jolie. You wanna call me, what you told me. Moko eje biti indomi. Baby, do the mommy, no go leave me lonely. Back with Jonesy, make you live the story. Maloko ya mommy, cause you see me stony. You wash out my homie. Emotionjo, you wash out my homie. Only problem, you wanna laugh about me. All of that, you call me, mata kumi. Soul. You've been melody for my soul. Girl, you're my home, my home. Can't leave you alone. Oh, oh. No competition for my lady. Oh no, cause she get everything where I need in a woman and more. My lady, if you see my lady, oh, it's the number one. You go don't say people fine. You go don't say God design in a LLA. Like my dress, she na peso, he like dress. I say nobody be contest you, my baby. Oh, she na yasho, she na peso, she na westo, una no be meto. Beauté et bien-être, le parcours pour retrouver sa féminité, on en parle ce samedi dans Alors on dit quoi, sous le prisme dans un instant de la socio-esthétique, qui, bien loin des instituts de beauté, est pratiquée dans le secteur médico-social. Son objectif, eh bien, c'est d'aider les personnes fragiles à retrouver confiance en elles. 20 femmes ont eu la chance de bénéficier d'ateliers socio-esthétiques et de bien-être au Philanthrolab. C'est un espace dédié à la philanthropie à Paris, c'est-à-dire aux associations, aux fondations et aux fonds de dotation qui œuvrent à une société plus juste et plus inclusive. Charlène, notre correspondante dans la capitale parisienne, a assisté à l'un de ces ateliers. On écoute.
Le Philanthrolab, un lieu dédié à la philanthropie à Paris, transformé en véritable salon de beauté pour la cause des femmes. Objectif : aider celles en situation de précarité à retrouver confiance en elles à travers un atelier socio-bien-être animé par Florence et Marie-Madeleine. Ces deux socio-esthéticiennes livrent leurs secrets de beauté pour aider des femmes vulnérables à prendre soin de leur visage.
Prenez plutôt quelque chose qui est un savon sans savon, si vous le pouvez.
Sont disposés sur les tables du lait démaquillant, des masques, des gommages et des crèmes hydratantes. 16 femmes, majoritairement africaines, apprennent à chouchouter leur visage avec des produits de qualité.
Alors là, on en applique en fait directement sur le visage. Toujours comme... Et puis on fait des petits cercles.
En socio-esthétique, la plupart du temps, ce sont des personnes qui sont fragilisées dans leur image. Donc la fragilité, ça peut être par la fragilité sociale, mais aussi la fragilité par la maladie, par l'âge, par le handicap. Donc en fait, dès l'instant qu'il y a une fragilisation dans l'estime de soi, nous, en tant que socio-esthéticienne, on est là pour intervenir et pour redonner foi, en fait, en la beauté.
J'apporte un bien-être au niveau des familles qui sont dans la rue, que ça peut être les dames, les messieurs et les jeunes gars, les ados et les petits aussi. Donc je les apporte un bien-être au niveau de l'estime de soi, qu'ils reprennent vraiment que voilà, il n'y a pas simplement la pauvreté, il y a l'estime de soi pour pouvoir avancer et aller voilà, de l'avant.
Dédire, confirmé par la jeune Maïté, agent de service d'origine ivoirienne, elle n'a pas pour habitude de prendre soin d'elle.
C'est rare que je prenne soin de mon visage, voilà. C'est rare, peut-être dans le mois, je peux le faire deux fois seulement. J'ai appris beaucoup de choses, surtout soin du visage avec le gommage, ensuite l'hydratant. En tout cas, ça s'est bien passé. La peau du visage, c'était franchement, c'est devenu comme une peau de bébé. On a bien aimé, ça fait du plaisir.
Michelle, commerçante d'origine gabonaise, serait également ravie de cet instant bien-être.
Quotidiennement, je fais ça, mais je n'appliquais pas ça correctement comme aujourd'hui, comme je l'ai appris. Je vais reproduire un peu de tout. Oh, je sens que ma peau, elle est lisse, elle est belle. Je me sens belle.
Après l'atelier soin du visage, direction le maquillage par Fanta. Make-up artiste guinéenne qui sublime la jeune Cissé, agent de service.
Ce n'est pas mon genre de me maquiller, je n'adore pas le maquillage, mais cette fois-ci, avec ce qu'elle m'a fait, je veux faire le maquillage. J'ai adoré ça beaucoup. Oui, c'est très joli.
Là, c'est une belle mise en beauté. Hein.
Sublimer la femme noire est la mission de Fanta. Cette maquilleuse avait un salon de beauté en Guinée-Conakry. Arrivée en France depuis 2014, elle continue d'exercer sa profession avec passion et rigueur.
La femme, c'est la beauté. Du coup, vous me voyez, non, même moi, j'aime me maquiller, j'aime être belle. Du coup, j'ai assisté parce que j'aimerais vraiment donner quelque chose à cet atelier. Du coup, je maquille plus les femmes de teint noir, les femmes africaines.
Michelle, Cissé, Maïté font partie de l'association CASP, un organisme qui accompagne les personnes en situation de précarité. Pour Aurélie, directrice générale, le bien-être est une des priorités.
Les ateliers de bien-être sont des ateliers absolument indispensables pour toutes les femmes que nous accueillons. Au CASP, nous accueillons de nombreuses femmes en situation de précarité. Nous leur proposons un toit, de l'alimentation bien sûr, mais ces femmes ont besoin de bien d'autres choses. Elles ont également besoin qu'on prenne soin d'elles, qu'on les aide à tout d'un coup reprendre confiance en elles.
Bien loin des instituts de beauté, la socio-esthétique propose des soins auprès de populations souffrantes et fragilisées. Encore peu connue, le soin esthétique est pourtant une manière de rester présent pour les autres, de prendre soin de soi et de se réconcilier avec un corps qui trahit parfois. Sans doute, une partie des réponses pour aider à la restauration de l'identité et du contact social pour des femmes en situation de perturbation de l'estime de soi, d'isolement social, de fatigue physique et mentale.
Merci infiniment Charlène pour ce reportage. Youssouf, une réaction après l'écoute de ces sons?
Alors, ce que j'aime bien, c'est que effectivement, il y a beaucoup l'image de soi qui retentit en tout cas dans mon oreille. Et par contre, moi, j'aimerais quand même alerter sur l'image de soi, mais surtout l'image que je veux renvoyer aux autres versus l'image que je dois renvoyer aux autres. Et aujourd'hui, on n'en parle pas souvent, mais il y en a beaucoup en fait qui mettent un masque. Pour justement renvoyer une autre image.
Mais est-ce qu'on n'en a pas besoin dans cette société qui juge beaucoup de se protéger avec un masque?
Justement, si on revient au mot bien-être, du coup, c'est plus être bien. Si on doit mettre un masque pour satisfaire les autres, c'est vraiment faire la distinction et c'est vraiment la vraie problématique en tout cas qu'on rencontre au cabinet. Et on a vu, même il y a eu une dénonciation qui a été faite au niveau des médecins psychiatres, que l'image de soi, l'image des autres qu'on renvoie versus l'image que je veux renvoyer, il y a une vraie, une vraie tension à l'intérieur de nous et ça commence depuis l'enfance. Donc c'est vraiment, il faut, nous on propose en tout cas des ateliers et des séminaires autour de déconstruire l'estime de soi et l'image de soi pour mieux la rebâtir.
Alors ça veut dire quoi déconstruire l'image de soi pour mieux la rebâtir? Concrètement, sur quoi vous travaillez?
Sur quoi on va travailler? Si on va retravailler la définition. Sur les envies de chacun et sur les préférences. Parce que c'est quelque chose qu'on a tendance à négliger, mais il y a l'image que la société nous renvoie et comment moi je préfère renvoyer cette image-là. Et l'idée, en fait, c'est pour mieux la rebâtir, c'est d'abord de casser tous ces codes de la société, rebâtir vraiment à son image pour justement se sentir belle et en bonne santé.
Rasmia, en tant que psychologue sociale, qu'est-ce qui vous a interpellé à l'écoute de ce reportage qui parle un peu d'un volet très important et pourtant parfois méconnu de la socio-esthétique?
Moi, ce que j'ai retenu et qui a beaucoup fait sens lorsque j'ai écouté justement ce témoignage, c'est le côté culturel. Et justement, on parle de femmes, justement, là, il y avait ça tournait autour de la femme un peu, voilà, autour de la femme noire, comment justement entretenir, être à l'aise avec cette beauté-là. Et ce qu'on remarque, en tout cas, les phénomènes sociaux, c'est que, qu'on le veuille ou non, on bouge beaucoup. On passe d'un pays à un autre et forcément, il y a des flux migratoires. On vient avec une culture et on arrive dans un autre pays où il y a une autre culture. Et c'est faire la jonction entre m'autoriser à être d'une certaine culture dans un autre pays, mm-hmm. et confronter et assimiler les deux, et ça devient de plus en plus complexe.
Donc rester soi face à un environnement mouvant.
Exactement. Et c'est aussi comment imbriquer les deux. Et c'est quelque chose qui ressort beaucoup, en tout cas actuellement au niveau des jeunes femmes, parce que j'accompagne aussi beaucoup de jeunes femmes. Mmh. On appelle ça de l'intersectionnalité, c'est quand on regroupe justement différentes cultures ou différentes choses qui vont faire que je peux être dans une situation de discrimination ou d'exclusion ou de différence. Et justement se retrouver et déjà avoir une image de soi, construire son image en étant dans une culture qui nous est propre, c'est compliqué. Mais quand on s'imbrique avec différentes justement attentes de différentes cultures, c'est de plus en plus complexe. Mmh.
Leslie, vous êtes coach bien-être. Cette notion de la socio-esthétique, est-ce qu'elle est intégrée au sein des séances que vous menez? Est-ce que physiquement aussi, il faut apprendre à prendre soin de soi?
Quand on parle de bien-être, effectivement, j'ai bien aimé l'intervention de Youssouf tout à l'heure qui disait qu'on va souvent parler du côté physique, du côté esthétique, mais on oublie finalement le côté plutôt profond. Et c'est là où tout à l'heure, Diarra, quand tu as annoncé la thématique du jour, tu as parlé de santé mentale. Et c'est pour ça que, pour moi, le bien-être, tout à l'heure, je disais que c'est être en harmonie avec soi-même, qui l'on est, mais en profondeur, de l'extérieur jusqu'à l'intérieur. C'est en fait essayer de trouver comment connecter son corps et son esprit, finalement. Et le fait de pouvoir, finalement, travailler sur son bien-être, ça va être effectivement d'un point de vue extérieur par rapport au reflet que l'on va refléter aux autres, mais ça doit surtout être quelque chose qui vient de l'intérieur si on veut que ce soit durable. C'est pour ça que justement en termes d'accompagnement, moi quand je fais des accompagnements en développement personnel, on va vraiment travailler en profondeur sur l'identité de la personne en tant que ce qu'elle est vraiment. Et non pas, comme le disait tout à l'heure Youssouf, le masque que l'on se met pour être finalement... en cohérence avec le conformisme de la société.
Mais on peut par pudeur garder ce masque et essayer de ne pas tout montrer. Culturellement, ça nous ressemble en tant qu'Africaine.
Bah justement, et c'est quand même un fléau parce que par exemple ici au niveau de l'Afrique et notamment au Congo, j'ai énormément de personnes qui me sollicitent pour des problèmes de confiance en soi. C'est pour ça d'ailleurs que je lance très bientôt un programme sur la confiance professionnelle, donc comment développer sa confiance en soi pour le bien de nos activités professionnelles. Parce que je me rends compte qu'il y a beaucoup de femmes et même d'hommes d'ailleurs qui vont se brimer, qui vont passer à côté de leur potentiel, de leur capacité parce qu'ils manquent de confiance en eux. Et la confiance en soi, elle se travaille autant au niveau mental qu'au niveau extérieur physique. Et c'est pour ça que lorsqu'on parle notamment de santé mentale, moi ça me parle parce que ça fait partie de mes points clés de travail, c'est qu'on va vraiment aller chercher en profondeur qu'est-ce qui bloque, quelles sont les choses qui parfois même viennent de l'enfance qui aujourd'hui a conditionné la personnalité que nous sommes. Et quand on regarde nos cultures africaines, on sait qu'on est souvent dans des cultures avec nos histoires de droit d'aînesse, nos histoires de quand on est avec des adultes, tu n'as pas le droit de t'exprimer, tu n'as pas le droit d'être, mmh. en vérité. Et donc ces masques, on les porte parce qu'on ne nous a jamais véritablement autorisé ni montré comment être soi-même sans forcément que ce soit mal perçu.
Mais ce procédé dont vous parlez à cette introspection mentionnée à plusieurs reprises ici, elle passe par quelle étape? Est-ce que ce sont des questionnements que vous menez ou plusieurs séances où vous allez travailler pour connaître vous-même cette personne-là?
Exact. Ben après, le propre du coaching, c'est de travailler avec l'art de la maïeutique, c'est-à-dire l'art du questionnement. Donc moi, mon travail, ça va être de guider, accompagner la personne dans son processus de réflexion pour comprendre quelle est la situation actuelle, quelles sont les origines de cette situation et comment ça s'est créé pour que ça impacte le présent, qu'est-ce que l'on veut pour demain et qu'est-ce qu'on doit faire aujourd'hui pour que demain ressemble à ce que l'on souhaite. Mmh. Donc en fait, finalement, c'est un processus qui va du présent au passé et au futur. C'est pour ça que je n'étais pas trop d'accord tout à l'heure avec l'intervention de la psychothérapeute qui disait
Il faut le dire, moi, comme ça on partage les points de vue.
Oui, comme ça on précise les choses. Non, mais c'est important de le dire parce qu'aujourd'hui on est sur des nouveaux métiers. Il y a beaucoup de différentes particularités. Il y a des psychothérapeutes, des psychologues, des psychanalystes. Il y a tellement de choses aujourd'hui. Maintenant, les coachs qui commencent aussi à faire de la psychologie. Donc, c'est vrai qu'il y a des amalgames qui se font. Après, moi, je parle pour moi, pour ma paroisse à moi. Et d'autres coachs ne font peut-être pas ce que moi je fais. Moi, c'est mon parti pris parce que je suis très intéressée et je travaille beaucoup sur ces sujets. J'ai là depuis très longtemps avant même de devenir coach. Donc finalement, c'est naturel pour moi d'aller vraiment en profondeur dans les choses. Et donc quand on travaille sur ce processus qui est autant du présent, passé, futur, on fait, si vous voulez, un travail à 360 degrés. Et c'est pour ça qu'au lieu de parler seulement de confiance en soi, moi j'aime beaucoup parler d'estime de soi. Parce que l'estime de soi va regrouper autant la confiance en soi, c'est-à-dire la capacité que nous nous donnons à faire les choses. Donc là, dans la confiance, on est plus dans le faire que dans autre chose. Parce que quand on parle d'image de soi, on est plus dans le reflet, donc tout ce qui va être esthétique, etc.
Et Leslie, les conseils dont vous parlez actuellement, est-ce que vous les appliquez ou est-ce que vous les avez appliqués sur votre propre schéma de vie? Est-ce que vous pratiquez cela pour justement avoir ce comportement sain que vous souhaitez montrer au monde?
Non, mais vous m'auriez dit, il y a 10 ans, Leslie, tu serais coach international, tu serais une femme reconnue qui passe dans les médias, qu'on appelle pour des événements, qui coach des grandes personnalités, qui aujourd'hui on appelle grande dame, etc. Tout ça, je vous aurais jamais cru il y a 10 ans. Et c'est un travail justement de développement personnel. Lorsque moi-même, en me lançant dans l'entrepreneuriat, je me suis retrouvée face à mes propres limites, que j'ai commencé à travailler sur mon développement personnel, que je me suis fait coacher, que je me suis fait former au coaching, que j'ai travaillé en fait sur toutes ces notions-là, d'abord sur moi, qu'aujourd'hui, en fait, je peux parler de ces choses parce que je les incarne. Mm-hmm. Et c'est ça qui est important.
Pas de masque, hein, n'est-ce pas, Youssouf? Allez, on continue de parler de bien-être, d'estime de soi, comme l'a mentionné à l'instant Leslie. On écoute d'abord Didi B, Miedia Aïcha.
On est connu, c'est dommage. On fait quoi s'il n'y a pas l'âge? Fuckboy depuis le collège. S'il y a trois gauches, je fais collage. Ces devis me découragent. Pensez qu'on avait tout gagné. C'est l'argent qui me soulage. Ma chérie, t'as beaucoup de courage. Allez Aïcha, je t'aime bien mais y'a Marisha. Ton vélof ça ne m'arrive pas. On promet mais on m'arrive pas. Aïcha, qu'est-ce qui m'arrive hein? J'pensais le match était fini, non. Elle a nos dernières minutes, non. Fuckboy change la vie facilement. Facilement hein? Yuguba, ouais y'a Yuguba. On donne plus mariage, mais l'autre c'est mon coupin. Je sais bien, tu voulais te poser. J'ai vu ça, moi j'ai mis dedans. Yuguba, ouais y'a Yuguba. On donne plus mariage, mais l'autre c'est mon coupin. Je sais bien, tu voulais te poser. J'ai vu ça, moi j'ai mis
allez,
dedans.
Allez Aïcha, 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 écoute-moi. Allez Aïcha, 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 écoute-moi. Allez Aïcha, 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 écoute-moi. Allez Aïcha.
M'arrêter, les affaires de l'homme c'est à la télé. Sur le terrain comme Abed du Pelé. Je connais pas, je t'aime, il faut épeler. Tout ça c'est dans papa, maman. Je l'ai coupé comme katana. Mon gars, je savais pas que c'était ta nana. Elle voulait, j'ai donné banana. Bébé Aïcha, je me suis trompé, moi j'ai vu Aïda. Une petite qui venait du Mali, femme Coca-Cola qui se bat comme Al-Qaïda. Aïe, qu'est-ce qui m'arrive hein? Je pensais que le match était fini, non. Elle a joué dans dernière minute. Papa, elle change d'avis facilement. Facilement. Yuguba, ouais y'a Yuguba. On donne plus mariage, mais l'autre c'est mon goupa. Je sais bien, tu voulais te poser. J'ai vu ça, moi j'ai mis dedans. Yuguba, ouais y'a Yuguba. On donne plus mariage.
Didi B, Miedia, c'était Aïcha. Un nouveau son du rappeur ivoirien. Merci infiniment pour cette pause musicale. Alors, Marie-Yvonne, l'entrepreneuriat, c'est difficile, on connaît, on entend énormément parler du parcours et du chemin des entrepreneurs, qui n'est pas un long fleuve tranquille. Et vous avez justement établi des séances pour le bien-être des femmes, un espèce de un parcours de vocation en plusieurs étapes. Dites-nous en plus.
On commence par faire le point sur qui est la personne que j'accompagne, en posant des questions, parce qu'il ne faut pas oublier que le métier de coach, c'est accompagner des gens. Ce n'est pas de leur dire ce qu'ils doivent faire, c'est vraiment de les accompagner. Et pour les accompagner, il faut absolument les questionner, donc l'art du questionnement. Ensuite, on fait plein de tests, tests de vocation, pour savoir finalement la personne, elle est faite pour quoi. Parce que malheureusement,
qu'on se pose tout au long de sa vie.
Mais le problème, c'est qu'on fonctionne beaucoup en pilote automatique. On est allé à l'école, on nous a demandé de faire telle ou telle étude. Nos parents ont projeté parfois
des voies,
exactement. Mm-hmm. Et le problème, c'est qu'on a beaucoup de jeunes qui s'engouffrent dans ça et qui finalement, arrivés adultes, se disent « mais en fait, c'est pas du tout ça ». Et il y a un problème. Et après, on a des problèmes de positionnement, de manque de confiance en soi, de manque d'estime de soi, parce que finalement, on ne sait vraiment pas pourquoi on est fait. Donc, c'est vraiment la première partie du parcours. Après, on va travailler toutes les croyances limitantes. On va essayer de faire péter les croyances limitantes.
Alors, quand on parle de croyances limitantes, on parle de quoi ? C'est quels freins qui sont identifiés à ce moment-là des séances ?
C'est je ne vais pas y arriver. Je ne sais pas pourquoi je suis là. Je ne suis pas capable. Je ne sais pas par où commencer. Je ne connais pas ce type de métier ou ce type d'entrepreneuriat. C'est toujours des choses comme ça qui finalement ne poussent pas l'entrepreneur à aller au-delà de ses limites. Donc c'est vraiment ça, le début en tout cas de l'accompagnement. Et ensuite, on va sur la partie business, une fois qu'on a bien nettoyé tout ça. On va aussi sur la partie accompagnement art oratoire et leadership.
Également dans le bien-être, partie-là.
Oui, parce qu'en fait, pour l'accompagnement de Tour de Marie, on demande à la personne de pitcher devant des investisseurs. Le problème, c'est que dès qu'on commence à prendre la parole, toutes les croyances limitantes arrivent. Mm-hmm. Et si on n'a pas bien travaillé au départ, c'est difficile de pouvoir se déployer. Finalement, et donc c'est aussi un autre travail que l'on fait aussi.
Aminata, vous êtes également entrepreneur. Les femmes sont confrontées à une charge mentale déjà qui est très forte, au-delà même d'être entrepreneur, les enfants, la famille, le travail, etc. Autant de raisons suffisantes pour le repli sur soi. Et le soin esthétique est une manière pour moi de rester présent pour les autres, prendre soin aussi de soi et de se réconcilier avec son corps. Est-ce que vous avez fait ce travail sur vous-même ?
Oui, naturellement, parce que pour m'occuper des gens, il faut que je sois bien. Sinon, je ne peux pas partager, je ne peux pas,
Mais vous avez fait ce travail seul, sans, par exemple, aller à la maison du bien-être Ikandi de Yusuf ?
Oui, seul. Parce qu'on va dire que tout à l'heure, par rapport à ce que la coach disait, l'environnement, c'est très important. J'ai eu la chance de grandir dans un environnement, sain. Ça m'a aidée. C'est ce que je voudrais souligner aussi. Avant d'en arriver à nous, socialement, notre quotidien est important. On peut commencer par rapport à l'enfance, à nos enfants, commencer à être bienveillants, à les complimenter, à ne pas les brimer sur leur physique, à les rendre jolis, tout ça. On grandit avec ça. Donc, personnellement, je n'ai pas eu de problème par rapport à cela. Donc,
ça vous a aidé.
Ça m'a aidé. Et c'est important.
Alors, on dit quoi ?
Alors, on va continuer de parler de cet aspect du bien-être avec Madeleine Rose Marie Loupi, qui, elle, est la fondatrice de l'Institut pour la promotion de la beauté et bien-être. Elle est également coiffeuse et esthéticienne à Dakar, au Sénégal. Madeleine, bonjour.
Bonjour Diara, comment tu vas ?
Ça va très bien, merci d'être avec nous Madeleine Rose, je suis ravie de vous entendre. Alors, peut-être une première question pour connaître un peu votre point de vue sur la corrélation que vous faites entre le bien-être et l'esthétique.
Alors, pour moi, en fait, la beauté et le bien-être sont étroitement liés parce que en tant que femme, je l'ai moi-même expérimenté, les jours où je ne suis pas très bien, que je prends le temps de me coiffer, de me maquiller, de bien m'habiller, tout de suite, tout va beaucoup mieux. Et donc, dans nos espaces, c'est ce qu'on essaie d'offrir aux femmes, tout simplement.
Mmh. Et justement, que fait l'Institut que vous avez monté à Dakar sur cette question-là ?
Alors, l'Institut pour la promotion de la beauté et du bien-être est une entreprise qui englobe deux entités, un centre de formation et un salon de beauté qui s'appelle Lingerla. Lingerla, c'est un salon de beauté qui fait essentiellement de la coiffure. Pour l'instant, on compte avancer vers l'esthétique. Mais en fait, on accueille des femmes entre 25 et 45 ans. Bon, bien sûr, on a d'autres clientes qui sont plus âgées, d'autres qui sont plus jeunes. Mais notre cœur de cible, c'est celle-ci. Et en fait, on a choisi cette cible parce que, en général, ce sont des femmes qui sont mariées avec des enfants, qui travaillent et qui sont overbookées, on va dire. Donc, elles ont besoin d'un exutoire où elles peuvent un peu lâcher du lest un peu.
Mmh. Madeleine, justement, cette question de la socio-esthétique dont on parlait il y a quelques instants, comment elle est abordée dans le cursus de votre institut ?
Par le biais d'un parcours client, en fait, on a un diagnostic bien précis et puis les questionnements, enfin les questions dont parlaient les autres coachs, pour pouvoir savoir en fait quelles sont les habitudes, quel est l'état d'esprit, comment elle se voit, quel est son idéal à la cliente et en fait essayer de lui proposer la meilleure combinaison.
Vous formez justement des jeunes coiffeuses. Comment les élèves elles-mêmes gagnent-elles en confiance ? Puisqu'on disait à l'instant qu'il fallait d'abord faire un travail sur soi avant de pouvoir aider les autres.
Effectivement, moi je suis toujours impressionnée de voir que les jeunes filles en fait qui sont sur le marché de la beauté en fait et qui travaillent de façon autodidacte, qui n'ont pas vraiment de diplôme, à partir du moment où elles sont suivies de façon très pédagogique dans un cadre académique formel, elles se déploient encore plus. En fait, j'ai l'impression qu'elles deviennent de vraies fleurs en fait et elles excellent tout simplement. Mm. Généralement, ce que j'ai remarqué, c'est que ce sont des gens qui sont très accrochés au diplôme parce que ça a une symbolique forte au niveau de la société, ça les valorise. Et elles ont besoin de tout ça, en fait, pour pouvoir mieux exister dans la société.
Merci infiniment, Madeleine Rose-Marie Lopi. Je rappelle que vous êtes la fondatrice de l'Institut pour la promotion de la beauté et du bien-être au Sénégal.
Merci, Dara.
Youssouf, ça me fait justement sourire d'entendre qu'effectivement, ça va mieux quand on sort du coiffeur. Mais vous, la maison Ikandi propose cette vision holistique du bien-être, oui, avec cet aspect effectivement physique, mais aussi psychologique. C'est Est-ce ça. Qu'on peut envisager des soins esthétiques et de coiffure au sein de la maison Ikandi ?
Bien sûr. On a, alors, j'en ai pas parlé, mais on a une personne qui est esthéticienne aussi au sein de Ikandi. Mais dans l'esthétique, en tout cas dans notre façon de travailler, justement, ça me permet aussi de répondre à la personne juste avant où elle parlait de confiance en soi, d'estime de soi.
Ouais, Leslie.
Oui, Leslie, je ne sais pas si elle est toujours là, mais pour moi, si on revient à la nature même de la définition de confiance en soi, c'est avoir foi en ses capacités. L'estime, c'est savoir évaluer toutes les parties de moi qui sont à l'intérieur de moi et comment je les aime, qui peut justement revenir sur les croyances limitantes et ainsi de suite. En fait, c'est tout ça qu'il faut englober et qu'il faut travailler. Bien sûr que oui, je vous dirais même, vous pouvez très bien aller courir demain et aller mieux. De la même manière que vous pouvez très bien vous maquiller, faire en sorte de vous sentir belle pour aller mieux. Mais c'est à un instant précis, pour une situation précise.
Et dans cette continuité, et encore pour vous titiller un petit peu, Youssouf, c'est que pour moi, ce bien-être, il est continu. Donc pour adhérer à cette histoire de vision holistique du bien-être, il faudrait que je prenne tous les jours des rendez-vous chez Aminata Paris, tous les jours des rendez-vous effectivement avec Autour de Marie pour être coachée. Donc en termes de temps, comment on se limite à ce bien-être ? Parce que ce bien-être, il est en perpétuelle recherche de ce bien-être. Quand est-ce qu'on s'arrête ?
Bah, finalement, j'ai envie de dire, est-ce qu'on a envie de s'arrêter ?
Mais on apprend à le chercher.
Après, vous n'avez plus, la cliente n'a presque plus besoin de nous, parce qu'on a des acquis.
Donc on commence, vous commencez un travail, vous en tant que coiffeuse esthéticienne, par exemple, Aminata. Quand est-ce que vous avez le sentiment que cette cliente peut être, entre guillemets, lâchée ?
Non, c'est pas nous, c'est la cliente même qui lâche parce que voilà, elle a les compétences qu'il faut, elle a les réponses à ses questions, elle peut elle-même s'occuper d'elle. Donc forcément, tant qu'elle est bien et que tout va bien, elle n'a plus besoin de nous.
On va prendre une dernière auditrice en ligne, Dawila Salmi. Elle est coach en leadership notamment. Dawila, malheureusement, il nous reste très peu de temps pour parler encore de cette thématique très intéressante autour du bien-être. Néanmoins, j'aimerais que vous nous donniez, vous, votre point de vue sur l'importance autour de la déconstruction de certains schémas qui empêchent d'être soi, finalement.
Bonjour à tous, Yara. Alors, rapidement, parce que beaucoup de choses ont été dites, donc je vais éviter de répéter. Moi, j'ai une spécialité, c'est la psychospiritualité. Donc, ça a été énoncé rapidement. Je le vois au quotidien, après 1500 personnes accompagnées, qu'aujourd'hui, et ça, c'est mon avis, et ça va peut-être grincer, les oreilles de certains coachs, mais je suis une anti-dev perso. Pourquoi ? Parce que dans le développement personnel, dans la manière dont moi, je l'ai vu, de par ma carrière dans les métiers de la finance et du monde des affaires, le développement personnel va développer la personne. Et aujourd'hui, au vu de la transition humaine dans laquelle on est en train d'évoluer, l'élargissement de la conscience, l'être humain prend de plus en plus conscience du potentiel de sa conscience et qu'il n'est pas juste un corps, qu'il n'est pas juste une émotion et qu'il n'est pas juste un esprit ou un mental et qu'il est bien plus grand que cela. Et donc, et je pense que là, je rejoindrai la majorité des coachs, mais il s'agit plus d'un dépouillement personnel, donc de ces masques, de l'ego, où il y a beaucoup de peur derrière, pour revenir à un éveil spirituel et revenir réellement à qui nous sommes, c'est-à-dire un amour inconditionnel. Parce que derrière toutes les problématiques de bien-être, la racine, c'est la peur et le manque d'amour. Et quand on n'est pas connecté à une source éternelle qui peut nous donner cet amour, on va constamment aller chercher dans de l'éphémère. L'éphémère, c'est quoi ? C'est cette matérialité, c'est l'autre aussi avec un grand A, qu'on va prendre comme responsable de notre malheur ou de notre bonheur. Et du coup, on ne compte plus sur ses propres ressources et on a du mal à se reconnecter à cette dimension céleste, cette dimension divine qui est en nous. Donc moi, après 8 ans d'expérience et d'exercice dans l'accompagnement, j'étais auparavant dans le milieu de la finance, je constate au quotidien que les racines, pour être nourries, doivent être transcendées, pour transcender des croyances limitantes. Il y a vraiment cette dimension céleste qui doit se mettre en place.
En quelques mots, Dawila, juste pour conclure justement cette émission, est-ce que vous auriez un conseil à donner à celles et ceux qui sont toujours en quête de bien-être, qui nous écoutent aujourd'hui ?
Ben moi, le seul conseil, c'est de remplacer bien-être par la paix intérieure et de se désidentifier de tous les schémas dans lesquels on nous fait croire que le bonheur ou la réussite passe par des codes qui ne sont pas forcément les nôtres. Donc, se désidentifier et revenir à ce que nous sommes réellement. Donc, si je peux, en tout cas, m'autoriser à vous encourager, moi, c'est ce qui m'a aidé à reprendre la souveraineté de ma vie et dans plusieurs, même si parfois on retombe, hein, le but, c'est de se relever comme un enfant qui apprend à marcher. C'est d'exprimer avec justesse dans des moments de silence et de vous écouter. C'est-à-dire vous écouter dans votre intériorité, et d'arrêter d'écouter les autres, même nous les coachs.
Être soi, hein, finalement. On ne vous...
Mais... Arrêter
de nous écouter. C'est un peu la bonne phrase qui conclura cette émission. Alors, un petit mot de la fin. Je vous donne 30 secondes, 30 petites secondes.
Bah, je vais juste terminer avec une citation justement qui peut rejoindre justement tout le monde, de Pierre Dard, qui dit « Beaucoup rêvent d'avoir, mais très peu rêvent d'avoir un être ».
Ah ben voilà, ça conclura effectivement, on laissera méditer nos auditeurs. Aminata Karamara, merci infiniment. Marie-Yvonne Delmeida, pareillement, bravo, merci pour tous vos conseils. Rasmia, j'espère qu'on parlera davantage de la psychologie sociale dans nos prochaines émissions. Et à vous, Youssouf Hamada, merci infiniment d'avoir éclairé nos auditeurs. Et Leslie Canaan, qui était en ligne avec nous depuis le Congo, merci infiniment Leslie. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine dans Alors on dit quoi ou non Hagongol. Merci à Guillaume, Beverly, Daba et Ablaï Gueye. À la semaine prochaine.